Chapitre 26. Le tunnel et la station. Grattement. Le dépôt du tramway. Red Molly. La réception de bienvenue. Le chagrin d'une mère. 1. Je pense que le tunnel mesurait environ 2 km entre la salle des officiels et l'endroit où il débouchait enfin à l'air libre. Mais sur le coup, avec une unique lanterne pour nous guider, il paraissait sans fin. Il montait en permanence, interrompu parfois par de courtes volées de marches, 6 ici, 8 là, 4 un peu plus loin. Soudain, le tunnel tourna brutalement à droite et on tomba sur un autre escalier, plus long celui-ci. Murph n'avait plus la force de soutenir Fried, alors ce fut Amit qui le porta. Quand j'arrivai en haut, je m'arrêtai pour reprendre ma respiration. Amit me rejoignit. Nullement essoufflé, maudit soit-il.
Fried prétend qu'il sait où débouche le tunnel, déclara-t-il. Dis-lui, Fried.
Celui-ci leva les yeux vers moi. Dans la lumière pâle de la lanterne, son visage offrait un horrible spectacle de bosses, d'hématomes et de coupures. De tout cela, il pourrait se remettre, mais sa plaie à la jambe était infectée. Je sentais l'odeur.
J'accompagnais parfois les officiels à l'époque, dit-il, les juges et les arbitres, pour soigner les entailles, les fractures et les crânes brisés, ce genre de choses. C'était pas comme le 1 contre 1, où on tue pour tuer, mais le...
Un mot que je ne compris pas.
C'était quand même violent.
Le reste de notre joyeuse bande était regroupé un peu plus bas dans l'escalier. On ne pouvait pas se permettre de s'arrêter, mais j'avais besoin de savoir ce qui se trouvait devant nous, alors j'agitai le poing devant Fried en lui ordonnant de m'en dire plus, mais rapidement.
On n'empruntait jamais ce tunnel pour rejoindre le terrain des monarques, mais on s'en servait souvent pour repartir. Et à chaque fois qu'Empis perdait, à cause de la foule enragée.
À mort l'arbitre, dis-je.
Hein?
Non, rien. Où débouche ce tunnel?
Au dépôt du tramway, évidemment.
Fried parvint à grimacer un sourire.
Vous devez bien comprendre une chose. Quand Empis perdait une rencontre, il valait mieux quitter la ville.
Ce dépôt, il est loin de la porte principale? Fried me dit ce que je voulais entendre et craignait de ne pas entendre.
Non, tout près.
En route alors. Je faillis ajouter
« Allez, allez, petit !»
Mais je me retins. C'était le langage de nos ravisseurs et je refusais d'employer ce mot méprisant. On avait liquidé 7 d'entre eux. Quoi qu'il se passe au bout de ce tunnel, c'était déjà ça.
« Qui a encore un seau avec de l'eau ?»
lançai-je. 6 d'entre nous avaient encore un seau, mais aucun n'était plein. Je leur demandai de venir se placer derrière moi. On utiliserait ce qu'on avait et après, on ferait ce qu'on pourrait. 2. On atteignit un autre escalier et Amit, enfin essoufflé lorsqu'on arriva en haut, remit Fried à Ayota.
« Laissez-moi ici, »
dit le doc.
« Je suis un poids mort. »
« Garde ton souffle pour refroidir ton porridge !»
grogna Ayota.
Il avait peut-être dit « porridge » comme dans l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours, ou bien « soupe ». Le couloir devenait plus raide, comme celui qui menait au terrain. Je priais pour qu'on arrive bientôt au bout, car le réservoir de la lanterne était presque vide et la lumière faiblissait. Soudain, sur notre droite, j'entendis des grattements et des raclements derrière les carreaux du mur. Tout près. Je repensai alors à ma course désespérée vers les portes de la ville, lorsque j'avais trébuché sur les pierres tombales et les poils de ma nuque se dressèrent.
« C'est quoi ça ?» demanda Quilly. « On dirait ?»
Il n'acheva pas sa phrase, mais on savait tous à quoi ressemblaient ces bruits. Des doigts. Des doigts qui creusaient la terre vers le tunnel.
« Je ne sais pas, » dis-je. Une réponse qui ressemblait certainement à un mensonge. Eris dit, Quand son esprit n'est pas en paix, je parle d'Eldon, les morts s'agitent. C'est ce qu'on m'a raconté. Mais c'est peut-être juste une histoire pour faire peur aux enfants. Et même si c'est vrai, je pense pas qu'ils peuvent entrer ici.
Je n'en étais pas aussi sûr. J'avais vu des mains sortir de terre, les morts tendre leurs bras dans le monde des vivants, et j'avais entendu grincer des gonds rouillés, comme si quelque chose émergeait des cryptes et des tombes. Plusieurs quelque chose, peut-être.
« C'est juste des rats !»
dit Messel. Il essayait de prendre un ton autoritaire.
« Ou des campagnols ? Ou des furets ? Tout le reste, c'est des histoires pour effrayer les enfants, comme elle l'a dit !»
Je ne pensais pas vraiment qu'il puisse franchir le mur carrelé qui nous séparait. Néanmoins, je ne fus pas mécontent de laisser ces grattements derrière nous. S'il provenait bel et bien du cimetière, j'avais une vague idée de l'endroit où on se trouvait. Et si je ne me trompais pas, on était tout près de la porte, en effet. Au moment où on atteignait un nouvel escalier, long et raide, la flamme de la lanterne se mit à vaciller.
« Laissez-moi ici !» « Laissez-moi !»
gémissait Fried. «
Je suis foutu !»« Ferme-la ou je t'achève pour de bon !»
halta Ayota, et il attaqua la montée de l'escalier en portant Fried dans ses bras. Je les suivis et tous les autres en firent autant. Au sommet se trouvait une petite pièce avec des bancs disposés de chaque côté et une porte. Celle-ci était verrouillée, mais pas de l'intérieur cette fois. Cela aurait été trop facile. La poignée était un levier rouillé. Amit l'empoigna, l'abaissa et tira de toutes ses forces. La poignée se brisa.
« Merde !»
Il la lâcha et examina sa main qui saignait.
« Aïe, amène-toi ! Mets-toi à côté de moi et vas-y !»
Ayota remit Fried à Kamit et à Quilly avant de venir se coller à Amit, épaule contre épaule. À l'intérieur de la lanterne, la flamme eut un dernier soubresaut, comme un mourant qui pousse son ultime soupir. L'espace d'un court instant, je vis nos ombres projetées sur les carreaux blancs, puis on se retrouva plongé dans l'obscurité la plus totale. Jaya gémit.
« Avec moi !»
rugit Amit.
« À trois, t'enfonces cette porte comme tu as jamais enfoncé quoi que ce soit dans ta putain de vie ! Un, deux, trois !»
Un mince filet de lumière apparut lorsque la porte trembla dans son encadrement avant qu'on replonge dans le noir complet.
« Oh, tu peux cogner plus fort que ça, espèce de... »
Femmelette, gonzesse, les deux mots se chevauchèrent dans mon esprit.
« À trois, un, deux, trois !»
La serrure devait être solide car elle tint bon. Ce furent les gonds qui cédèrent, en voyant valdinguer la porte. Ayota et Amit trébuchèrent. Ayota tomba à genoux, Amit l'aida à se relever. On les suivit.
« Béni soient les dieux !»
s'exclama Oka. Un vaste espace vide renvoya l'écho de sa voix.
« Nini, yeu,
Une seconde plus tard, un nuage d'ailes parcheminées nous enveloppa. 3. Eris et Jaya poussèrent des cris stridents dans une harmonie parfaite. Mais elles ne furent pas les seules à hurler de terreur. Je faisais partie du lot. Je lâchai la lanterne pour protéger ma tête et l'entendis se briser sur le sol de pierre.
« Des chauves-souris !»
dit Fried d'une voix sifflante.
« C'est juste des chauves-souris. Elles perchent dans... »
Pris d'une quinte de toux, il ne put achever sa phrase, mais il pointa le doigt vers les ombres profondes sous le toit. Amit prit le relais en beuglant.
« C'est des chauves-souris! Elles vous feront pas de mal! Restez où vous êtes et chassez-les !»
On agitait les bras, et pour ma part, j'espérais que ce n'étaient pas des vampires, car elles étaient énormes, comme celles qui vivaient dans le tunnel entre l'Illinois et Empis. Je les voyais tournoyer grâce à la faible lumière extérieure, un clair de lune dans un linceul de nuages, devinais-je, qui entrait par un alignement de petites fenêtres très hautes. La plupart de mes compagnons gesticulaient frénétiquement. Kamit et Quilly, obligés de porter Fried, ne pouvaient pas chasser les chauves-souris, mais le doc agitait faiblement les bras en crachant ses tripes. Enfin, la colonie s'enfuit et regagna les hauteurs de la gigantesque salle dans laquelle on se trouvait. Cette partie du dépôt abritait le garage, visiblement. Il y avait là au moins 20 wagons parfaitement alignés. Sur leurs capots, qui ressemblaient à des nez écrasés, étaient peintes différentes destinations. Front de mer, Disque, Ouloum, Taïwo Nord, Taïwo Sud, Île Verte. Les perches installées sur les toits, destinées à recevoir l'électricité provenant des câbles suspendus, la plupart gisaient dans les rues désormais, pendaient mollement et tristement. Sur les côtés des quelques wagons que je pouvais voir figuraient, en lettres dorées, des mots qui n'avaient plus cours à Impis. Amitié, bonne entente, bonté, amour.
Comment on va sortir de là ?
Demanda Stux. Iris répondit : Tu n'as pas appris à lire.
Aussi bien que n'importe quel garçon de la bourse, je suppose.
Répliqua Stux, grognon. Moi aussi, je serais grognon, songeais-je, si j'étais obligé de plaquer ma main sur ma joue pour éviter que les aliments foutent le camp.
Lis ce qui est marqué là, alors.
Dit Iris en montrant une haute arche centrale au fond du garage. Au-dessus, on pouvait lire « Sorti ». On passa sous cette arche, très aspirant à l'évasion, marchant derrière leur prince qui ne savait pas où il allait. On déboucha dans une pièce presque aussi vaste que le garage où s'alignaient d'un côté d'anciens guichets et de l'autre une succession d'arches plus petites, au-dessus desquelles étaient peintes des destinations là encore. Les vitres des guichets avaient été brisées. Une immense statue de papillon avait été fracassée en 1000 morceaux et une peinture murale représentant elle aussi des papillons avait été éclaboussée de peinture. Mais les vandales n'avaient pas réussi à dégrader la totalité de la fresque. Tout en haut, des carreaux d'un jaune éclatant faisaient le tour de la salle. Sur chacun figurait un monarque. Je me sentis réconforté en voyant ce qui avait échappé aux sbires d'Eldon. Et si je ne me trompais pas, il y avait, non loin d'ici, quelque chose qui pourrait m'être utile. «
Venez !» dis-je en montrant une rangée de portes. Je me mis à courir.